Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si tu veux soutenir l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour faire un don du montant que tu veux ou alors pour faire un don mensuel.
L'actualité cette semaine, elle a été marquée en partie par le retour du dossier Bétarame, Notre-Dame de Bétarame, cet établissement d'enseignement catholique privé des Pyrénées-Atlantiques, proche de Pau, dont on parle beaucoup depuis quelques semaines, quelques mois même. Des centaines d'élèves ont subi des agressions sexuelles, physiques, psychologiques, infligées par des prêtres, des surveillants, des professeurs. Entre les années 50 et 2010, c'est quand même beaucoup. À ce jour, plus de 200 plaintes d'anciens élèves ont déjà été enregistrées. François Bayrou a toujours nié avoir eu connaissance de ce qu'il se passait à Bétarame alors qu'il était ministre de l'Éducation et élu local au moment de plusieurs affaires judiciaires et que ses propres enfants étaient scolarisés à Bétarame. Et à propos de ses propres enfants, l'actualité a été marquée hier soir en direct sur Mediapart dans l'émission À l'air libre. En direct, une des filles, la fille aînée de François Bayrou, elle-même scolarisée à Notre-Dame de Bétarame, a témoigné avoir elle-même été victime de violences. Elle a également dit que son père n'était pas au courant, mais qu'en revanche, son père avait quand même rencontré un magistrat qui enquêtait sur ce dossier. C'est quand même pas rien. Je ne sais pas comment poser cette question. Je pense qu'on va aborder plusieurs aspects de cette actualité ensemble, mais est-ce que vous pensez que c'est un coup dur pour François Bayrou, un coup de plus? Est-ce que vous pensez que... Parce que moi, dans le chat, depuis le début de l'affaire Bétarame, il y a quand même pas mal de gens qui me disent « Mais on en est où de Bétarame ? Comment ça se fait qu'on n'en parle plus ? Moi, ça me paraît tellement scandaleux que ça devrait faire la une de tous les JT. On n'en parle plus. »
On l'a constaté, nous, à Rhinocéros, c'est un épisode, on a fait une petite synthèse du traitement médiatique de l'affaire. Il a fait 1 million de vues sans se fouler, quoi. Vraiment, il y a un intérêt des gens pour ce truc-là. Les gens sont choqués par ce truc-là. Par contre, quelles sont les suites? Tant que Bayrou continue à nier, à dire que voilà, alors il y a une commission parlementaire, quand même.
Le 14 mai, il sera auditionné par l'Assemblée nationale.
Toujours ça de prix, Violette Pibou et.
Et Paul Vanier.
Et Paul Vanier, voilà. Bon, tiens, Léa.
Excusez-moi, je me suis perdue.
Mais je pense que ça choque sincèrement les gens.
Oui, je pense aussi. Mais moi, ce que je disais jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans le sens où une commission d'enquête parlementaire se réunit et commence à travailler. La justice, de son côté, est saisie. Et malheureusement, ces choses-là prennent du temps. Et ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Et François Bayrou essaye de se défendre comme il peut, c'est-à-dire très mal.
Je rappelle quand même
que François Bayrou, je veux dire, sa défense depuis le début de ce dossier est totalement lunaire. Là, on en est au point où c'est sa propre fille.
Tu vois, la dernière fois, je te disais, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, quoi, François Bayrou. Et là, tu vois, c'est le mec qui peut mentir, il ment ouvertement. Là, aujourd'hui, il a reconnu avoir, finalement, son cabinet reconnaît qu'il a bel et bien rencontré ce juge, après l'avoir nié plein de fois. Il a fallu que sa fille le dise.
Sa fille qui l'a dit, donc.
Sa fille a dit, il est rentré le soir, et il nous a dit, j'ai vu le juge.
mais ne le dites pas.
Mais ne le dites pas, voilà. Il l'a bien pas dit. Donc, comment. Voilà, en effet, sa parole, elle vaut plus rien, enfin, sur quoi que ce soit, en fait.
Climax, toi, t'as suivi un petit peu ce qu'elle a dit, la fille de François Bayrou
Moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé l'émission de Mediapart hier, et en soi, c'est pas nouveau, puisque le juge lui-même, il avait déjà dit que Bayrou était venu le voir. Tout ce qu'elle a fait, c'est dire que confirmer, quoi. Mais bon, ça amène en fait pas ça amène des preuves supplémentaires sur le fait qu'effectivement Bayrou était au courant, mais c'était pas particulièrement nouveau. Mais il me semble que en fait, ce que vous dites et le fait qu'on parle pas énormément médiatiquement de cette affaire, c'est un peu à l'image justement de ce qui s'est passé avec François Bayrou et avec d'autres qui, dans notre incapacité à comprendre les violences sur mineurs, les violences sexuelles et les violences tout court sur mineurs. Et notre incapacité à reconnaître le caractère systémique de ces violences. Et il me semble que ça bloque tellement qu'en fait, on est incapable d'avoir un discours dessus. Et je pense que c'est évidemment... Enfin, je suis évidemment complètement d'accord avec le fait que François Bayrou doit démissionner. C'est pas un sujet. En revanche, je pense qu'il faut pas s'arrêter seulement à la figure de François Bayrou et seulement s'interroger et tourner en boucle en permanence pour savoir si le degré de responsabilité de François Bayrou dans cette histoire... qui existe, soyons clairs, mais aussi de comprendre que effectivement le propre de ces violences systémiques, c'est qu'elles font système au sein de l'institution et que le fait que toutes les personnes soient protégées, et on va parler je pense du pape, mais typiquement au sein de l'Église, au sein de l'enseignement catholique, au sein de la famille, le fait que les agresseurs soient systématiquement protégés et pas inquiétés, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. nous, à l'échelle de toute la société. Et c'est hyper important qu'avec cette affaire Betarame, on comprenne cette chose-là. Et pas seulement de se concentrer sur la responsabilité de François Bayrou, qui doit démissionner quand même.
Mais sur le principe, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, il y a un truc, c'est François Bayrou reste un obstacle pour qu'on arrive à parler de tout ça. En fait, ça a été longtemps une affaire Betarame. Ça devait être une affaire Betarame, mais c'est aussi devenu en fait l'affaire François Bayrou. Bayrou, à force de s'empêtrer dans ses mensonges, il empêche qu'on parle de ces vrais sujets, qu'on reparle de l'enseignement catholique, qu'on parle des violences sexuelles, physiques, psychologiques et sexistes dans les établissements scolaires, dans l'Église, etc. Mais en fait, moi, je t'avoue que je comprends pas la stratégie de François Bayrou, parce que il serait beaucoup plus utile. Il aurait pu dire tout de suite, effectivement, j'avais vaguement connaissance, parce qu'il avait peut-être connaissance de tout dans le détail, mais s'il avait reconnu tout de suite en disant j'ai pas pris la mesure de ce que c'était, mais il faut qu'on travaille pour aller plus loin. En fait, il y avait quasiment plus de polémique Bayrou.
C'est le propre de ces violences-là, en fait. Même dans les familles, quand on voit qu'il y a des cas d'inceste, en fait, les gens savent quand il y a des cas d'agression et d'agression sexuelle au sein des familles, au sein des établissements, et c'est même devant le fait accompli, en fait, on n'est pas capable de reconnaître ces violences. En fait, c'est pas si étonnant, je veux dire, sa réaction. C'est incompréhensible de l'extérieur.
Mais les premiers ministres.
Non, mais évidemment, encore une fois. Mais je veux dire, en fait, c'est je pense que... Voilà.
Namou, on a entendu la fille de François Bayrou affirmer que François Bayrou n'a pas cherché à couvrir les violences, mais elle a dit il est juste paumé au milieu de ce dispositif pervers. Pour toi, c'est entendable ?
Alors, il ne faut pas non plus qu'il se cache derrière cette justification, mais j'ai l'impression que c'est vraiment à l'image un peu de ce qu'il fait depuis qu'il est Premier ministre, c'est-à-dire qu'il a l'air d'être paumé en permanence, de ne pas savoir de quoi il parle et de ne pas savoir pourquoi il est là, en fait. Et je pense que, enfin, il faut pas non plus se cacher derrière ce je ne savais pas, donc voilà quoi. Il était quand même responsable politique à l'époque, il était ministre de l'Éducation nationale. Il a, en plus de ça, nié à plusieurs reprises avoir rencontré ce juge, et je trouve ça juste dingue de pouvoir être capable de nier aussi longtemps une chose pareille.
Il avait fini par reconnaître en disant il avait juste parlé du contexte, mais pas de l'affaire en elle-même.
Mais pour moi, en fait, il s'est illustré par un manque criant en fait d'action, et c'est ça depuis très longtemps.
Ce qui me sidère, c'est que je me souviens de la toute première fois qu'il a été interpellé aux questions au gouvernement sur ce sujet. On était en live, et c'était un député de gauche qui le prenait à partie là-dessus, et il répondait quasiment sur le ton de l'ironie, en disant « Non mais vous venez me chercher avec une histoire, là, votre truc, j'ai jamais entendu parler de ça, de quoi vous parlez. » Enfin vraiment, avec un mépris affirmé, une manière de dire « Arrêtez de me poser des questions sur ce sujet, je m'en moque, c'est ridicule, passons à autre chose, soyons des adultes. » Sauf que ça s'est pas arrêté, et dans la foulée, je me suis dit « Mais putain, ça aurait été tellement facile pour François Bayrou de s'en sortir de ce bourbier, en disant « Je suis désolé, j'ai merdé, j'ai manqué de vigilance à une époque où on avait tous peu de vigilance sur le sujet. Le ministère de l'Éducation nationale contrôle peu les établissements scolaires privés catholiques, c'est un problème. Ça l'était déjà à l'époque.
On t'en demande beaucoup, là.
Mais non, mais attends, excuse-moi.
Mais ouais, en fait,
je suis désolé,
j'en demande pas beaucoup. Des conclusions politiques et tout.
J'en demande pas. J'en demande pas beaucoup. Je veux dire, je suis Premier ministre aujourd'hui, ancien ministre de l'Éducation nationale. Je pense donc qu'il faut qu'aujourd'hui on renforce les contrôles, qu'on ait une meilleure école pour demain et pour nos enfants. J'en sais rien, je suis en train d'inventer des trucs, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le bout du monde de faire ça. Je lui demande pas de faire un mea culpa sur l'ensemble de sa carrière politique, de changer d'avis. Je lui demande juste de dire un truc vrai. Oui, dans les années 90, c'était pas ouf le contrôle des établissements privés.
Mais ça n'est toujours pas. Pardon.
Ça n'est toujours pas. Donc, agissons.
Non, mais parce que Paul Vanier, là, le député LFI qui fait partie, qui est rapporteur de la commission d'enquête, disait justement ça. Qui disait, alors je me souviens plus le chiffre, mais c'était quelque chose comme un établissement sur un milliard d'enseignements catholiques. Vrai chiffre. Ce ne sont pas des vrais chiffres. contrairement à. Il disait, en fait, il n'y a pas de contrôle sur les établissements catholiques.
Le contrôle, il est pédagogique, il n'est pas sur le reste. Et c'est un vrai problème.
Contrairement aux lycées musulmans, par exemple, qui sont, eux, extrêmement contrôlés. Et il faut bien comprendre que, en fait, ces choses-là. Et donc, il soulignait l'importance qu'avait le secrétaire le chef des enseignements catholiques, de l'enseignement catholique, qui avait un rôle extrêmement important et qui appelait le ministre de l'Éducation, etc. Et encore une fois, ça, il faut bien comprendre que c'est des problèmes systémiques, c'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment une protection de cet enseignement catholique qui est fait à un niveau politique à différentes échelles. Voilà, bref. Et c'est ce que tu dis sur le fait de ne pas protéger les enfants, c'est de fait mettre en danger les enfants.
Bien sûr. Non, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Léa.
Oui, je voulais compléter justement. Il y avait cette commission d'enquête indépendante sur les abus sexuels au sein de l'Église qui avait mené toute une enquête de plus de 2 ans et demi. Avec à sa tête Jean-Marc Sauvé, qui d'ailleurs est également membre de la commission indépendante dans l'affaire Betaram, qui avait fait un focus spécifique sur les établissements scolaires, précisément, et qui dit que, effectivement, dans les établissements scolaires privés catholiques, il y a effectivement un enjeu d'autorité directe sur du fait des figures religieuses sur les enfants, et aussi une culture du silence, du respect absolu de l'autorité religieuse, ça je cite. Et d'ailleurs, ce rapport faisait quand même état de plus d'une quarantaine de propositions et de propositions d'évolution, notamment sur la formation des enseignants et des comment on les appelle? Ceux qui...
Les personnels encadrants.
Les personnels encadrants. Ouais, non, mais il y a un terme spécifique.
Les
AED.
Les quoi?
Les AED.
Les pions.
De qui tu parles? Des pions?
Les CPE.
Des curés qui sont dans les écoles. Ils ont un nom spécifique, non?
Les curés qui sont dans les écoles.
Le truc qui était super sérieux, qui devient complètement... Non, bref. Les recommandations, quand même, qui disent que dans le processus de recrutement, effectivement, il faut vraiment faire gaffe et avoir des personnes qui sont en capacité d'accueillir des enfants, aussi la nécessité de faire en cas de suspicion, ils disent qu'il faut impérativement qu'ils soient volontaires pour vraiment collaborer avec la justice, puisque c'est souvent pas le cas, en gros ils font leur truc entre eux, et aussi mettre en place des procédures de signalement. Que s'est-il passé depuis que la commission a remis son rapport en 2021? Réponse, rien, voilà. Ouais. Je voulais juste te rappeler ça, qui me semblait quand même assez important.
Oui, et tu vois, ce que tu dis sur le fait d'être capable pour les... Alors, le chat dit les aumôniers, apparemment, qu'on va go with les aumôniers.
Comme en prison.
C'est ça.
C'est comme en prison, alors.
Voilà.
C'est pas si c'est le terme que...
C'est l'aumônier.
C'est genre prédicateur. Prédicateur, c'est pas ça, non?
Prédicateur, c'est...
Non, mais aumônier, peut-être.
Bon, bah, eux, quoi.
C'est le quiz à la con, en fait, là, j'ai pas compris.
Ils gèrent les aumôneries qui sont à côté.
Il y a des questions sur le catholicisme, c'est ça, et j'étais pas là.
Un quiz à la con sur le catholicisme.
C'est les aumôniers dans les écoles.
T'es allé faire une petite partie de Gorbi?
Comme Barry Gorbi, ouais. Je suis allé me confesser, c'est pas vrai. C'est pas le moment en plus de faire ce genre de blague.
Moi, t'es dans une église, écoute. Hein.
C'est pas ouf. Pardon, vous étiez en train de dire des trucs passionnants.
Ouais.
C'était toi.
Ouais, c'est con, t'as tout loupé.
Ah oui, non, si, oui. J'étais en train de dire quoi? Oui, ce que tu disais, qu'il fallait que du coup, en gros, les gens qui étaient au contact des enfants, et en l'occurrence, les gens qui font partie de l'église au contact des enfants dans l'église catholique, dans l'enseignement catholique, c'est encore une fois, là il y a aussi la question de la manière dont sont gérées les violences sexuelles au sein de l'église, puisque du coup on se retrouve avec des gens, ce que tu dis, ils le gèrent entre eux, mais en fait de fait, comment ça se passe au sein de l'église, c'est-à-dire, ça se passe, ils mettent le mec qui agresse des enfants autre part, quoi.
Ouais, c'est ça, paroisse. En fait, ils les couvrent, ils les déplacent dans d'autres
états. Exactement.
Et c'est un peu ce qui s'est passé avec,
et à chaque fois, pour qu'il n'éclate pas le scandale, qui éclabousserait l'institution tout entière, et c'est comme ça que ça tient.
Absolument. Oui, oui. C'est une des avancées du pape, quand même. En vrai, on peut lui, il a permis, il rend obligatoire désormais l'ouverture des cellules d'écoute pour les victimes. Et avant, le clergé disait clairement qu'on pouvait cacher ces affaires-là. Et depuis François, aussi parce qu'il a, c'est lui qui a dû gérer les divers scandales partout dans le monde sur les violences sexuelles dans l'Église, qui a fait que de toute façon, les gens du clergé ne peuvent plus garder ça pour eux.
Ça me fait penser.
Vas-y, Namo.
Ça me fait penser justement au traitement de scandale, du scandale Abbé Pierre, qui a été pour moi très bien géré par toute la Fondation Emmaüs, et qui n'a pas joué le jeu de nier en bloc ou d'essayer d'atténuer ou quoi. Et je trouve ça rafraîchissant de voir ça. En fait.
Ouais, c'est un beau contre-exemple.
Ils ont même changé de nom maintenant, ça s'appelle la Fondation pour le logement des défavorisés.
Ouais.
Mais parce que, en fait, la Fondation Emmaüs, à un moment donné, en devenant vraiment une organisation type ONG quand même assez fat, est sorti de la logique cléricale et vraiment devenu une orga de la société civile plutôt traditionnelle. En fait.
Il y a un truc aussi, parce que vous parliez du caractère systématique de cette protection du système contre la parole des enfants victimes. Ça va même aussi plus loin que ça. Dans mon livre, j'avais parlé de société du bizutage en dénonçant une faculté qu'on a collectivement dans notre inconscient à accepter l'idée que les enfants en chient un peu. Que finalement, grandir, ça doit pas se faire sans douleur. C'est normal. Il faut souffrir pour être belle. Il faut souffrir pour être un petit garçon. Il faut souffrir pour être un adolescent. Et si tu te prends une tarte, c'est pas la fin du monde. Ouais. Au contraire, ça va même t'éduquer un peu. Et ce fantasme-là de cette société du 18 âge, tu le retrouves dans des passages, dans des rites de passage comme le service national universel où tu vas te retrouver au garde à vous, mon grand. Tu vas faire des pompes devant un gradé. Et c'est humiliant, mais c'est fait exprès, en fait. C'est pensé comme ça, c'est voulu. Mmh. Et ça aussi, c'est un truc auquel il faut qu'on s'attaque si on veut réussir à faire réduire la quantité de violence que subissent les enfants. C'est qu'on prenne à la juste hauteur l'horreur que représente une société qui maltraite ses propres membres et, à ce point-là.
Et je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis. Et en plus de ça, il y a cette dimension dans les violences sexuelles, et notamment avec les petites filles. L'expérience de l'agression sexuelle dans l'enfance, c'est aussi une manière d'apprendre la domination, d'apprendre corporellement la domination.
Parfaitement.
Voilà. Ouais, ouais. J'en avais parlé lors d'une carte blanche où justement j'avais parlé du film Cassandre de la réalisatrice, Hélène Merlan, qui parle en fait de cette dynamique de la violence intrafamiliale et notamment il y a cette phrase de il faut souffrir pour être belle et ça part sur tout ça quoi.
Et alors en termes de solutions, on note que la CIVIS, la commission sur l'inceste et les abus sexuels, recommande de rendre imprescriptibles les viols et les agressions sexuelles sur les enfants. Je vous rappelle que en droit, la plupart des délits et des crimes, la quasi-totalité des délits et des crimes sont prescrits au bout d'un certain temps qui est fixé par la loi. Ça veut dire que on ne peut pas vous inquiéter pour quelque chose que vous a commis il y a plus de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça dépend du délit, du crime, etc.
Que le crime contre l'humanité qui n'est pas prescrit, je crois.
Alors, il y a une imprescriptibilité du crime contre l'humanité, il y a des prescriptions qui ont été changées récemment. Léa, je me tourne vers toi parce que j'ai un doute, je crois que c'était pour des agressions sexuelles sur les femmes.
Non, oui, mais je crois que c'est passé de 20 à 30 ans, mais c'était une augmentation, mais c'était pas une imprescriptibilité.
Ah non, c'est certainement pas une imprescriptibilité, mais ça a été une occasion de passer de 20 à 30, effectivement, une augmentation. Bref, je suis en train de me perdre, je suis désolé. Pour vous dire qu'effectivement, il y a une proposition de dire, en fait, le problème, c'est qu'un enfant ne peut pas témoigner à l'âge de son enfance, qu'ensuite il va se construire en tant qu'adulte et que le trauma peut ne revenir que des décennies plus tard.
Ouais, bah oui.
Et on a des cas, c'est le cas à Bétaram, mais des hommes avec les cheveux blancs, des hommes âgés d'une cinquantaine d'années qui témoignent sur ce qui leur est arrivé quand ils étaient petits et ce, pour la première fois de leur vie. Donc, cette proposition de rendre imprescriptibles les violences subies par les enfants, qu'est-ce que vous en pensez ?
Puis au-delà de l'Église, c'est vrai que moi j'ai envie de généraliser un peu parce qu'on a vu des affaires dans le sport aussi. De toute façon, dans tous les milieux où il y a un contact avec les enfants, il y a et en plus en
France, figures d'autorité fortes aussi.
Et des figures d'autorité fortes du dressage, si tu veux. Et en plus en France, on a un fond de culture où on est quand même un peu moins dur avec la pédocriminalité que nos voisins. Quand tu regardes les moyens que met l'Allemagne à avoir une vraie cellule qui va pourchasser les pédocriminels, les chercher sur Internet, ils laissent des traces en plus. Enfin, je veux dire, c'est trouvable. On peut chercher, on peut trouver. En France, on vient de se faire taper sur les doigts là, il n'y a pas longtemps, parce qu'on ne sait même pas recueillir la parole des enfants. Ils vont dans un commissariat pour parler, le commissaire, personne ne sait faire, et c'est pas enseigné. On n'a pas traité le problème. On ne pose pas la question.
Ouais.
Et en effet, ça dit beaucoup de comment on traite les plus faibles d'entre nous, à savoir les enfants, ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui ne peuvent pas se lutter, je m'embrouille. Mais ça dit beaucoup sur nos valeurs aussi, quoi.
Mais c'est une raison de plus pour laquelle, pour moi, oui, il faut faire sauter ce truc-là, parce que...
Oui, mais si même la police, n'est même pas à même de... Il va falloir aussi former autrement la police.
La police ou les adultes dans les écoles.
Mais surtout, en fait, il y a beaucoup de ces violences où il y a un mécanisme de protection où le trauma est juste oublié et, en fait, refait à surface pour X raisons. Et justement, si on permet en fait à ces victimes de pouvoir parler 10, 15, 20 ans, 30 ans plus tard, justement en fait on leur laisse aussi le temps de pouvoir gérer ça et d'avoir en fait ce parcours en fait vers cette reconstruction, vers cette voilà.
Mais je voulais dire qu'en fait en France on a cette habitude de on va changer un truc dans la loi.
Il faut
plus que changer un truc dans la loi.
Oui, non, bien sûr,
c'est changer un truc dans la culture aussi.
C'est multifactoriel, oui, bien sûr. Ce que je disais sur le bizutage institutionalisé, ça fait partie de ça. Mais pour ne pas rester que dans l'incantation, il faut aussi imaginer des mesures, quoi.
Et juste, oui, l'imprescriptibilité, bon, vous avez compris.
Ouais, j'ai pas voulu le répéter.
Très bien, mais il y a aussi, typiquement, le fait, l'éducation sexuelle à l'école. C'est pas respecté en France, l'éducation sexuelle à l'école. Enfin, l'éducation à la vie affective.
Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je pense qu'on devrait se saisir de cet exemple-là de Bétarame pour rappeler à la droite.
C'est vrai.
Qui essaye de nous empêcher de faire l'éducation sexuelle.
Bah ouais,
vous voyez, c'est typiquement dans ce genre de cas que c'est hyper important.
Attends, mais il y a même des gens de la majorité qui ont ouvrié la carafe.
Ouais, je sais, je sais. Mais c'est, voilà, Bétarame, super exemple. Voilà, vous voyez, un établissement scolaire dans lequel des enfants sont victimes d'agressions sexuelles. Et vous, vous voulez empêcher qu'on donne les moyens aux enfants.
Et puis, on n'a pas parlé.
Parlez pas en même temps, s'il vous plaît.
Ah, pardon.
Autre sujet sur lequel on voulait discuter ensemble, le décès du pape François. Ça vous a pas échappé, évidemment. Le pape est mort lundi dernier à l'âge de 88 ans. Intéressant, les réactions en France, en tout cas, suite au décès du pape. On sent que la droite et l'extrême droite sont un peu mal à l'aise vis-à-vis de la figure de ce pape jugé peut-être un peu trop progressiste. À gauche, moi, j'ai vu beaucoup de louanges vis-à-vis de ce pape, en oubliant parfois quand même deux, trois positions. Voilà, pas de turbo-progressiste qu'ont pu être celles du pape François. Ça vous a étonné, vous, le concert des réactions à son décès?
Un peu, quand même.
Bah ouais, sa mort, ouais. Emilio.
Bah, il n'y a pas...
Si, moi, le jour même, j'étais surpris. Ouais, c'est vrai. On l'a vu hier.
Avec J.D. Vance,
en plus. Avec J.D. Vance.
Il y a une rumeur qu'il l'a tué.
J.D. Vance, qui l'a empoisonné.
L'Antéchrist.
Il est sorti faire coucou.
C'est ouf qu'il soit mort le jour de Pâques.
C'est fou.
Emilio, est-ce qu'on peut parler d'un pape de gauche?
En fait, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment calquer la lecture droite-gauche au sens où nous on l'entend. Il a porté des réformes importantes dans l'Église, ou en tout cas, il avait l'ambition au début de son mandat. Je sais pas comment on appelle ça.
Son pontificat.
Il y avait quand même cette volonté de vouloir donner davantage de place aux femmes dans l'Église. Alors ça a été sur le papier ce qu'il avait vendu, mais dans les faits, ça a été quasiment absent. Il a quand même affirmé sa volonté de décriminaliser l'homosexualité. Faut se rappeler aussi que son premier déplacement, c'était à Lampedusa sur les migrants. Mmh. C'est un pape qui avait de grandes attentions pour les périphéries. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là.
Ça veut dire quoi, les périphéries?
Les périphéries, c'est tout ce qui... c'est-à-dire que la périphérie au sens de l'Église catholique, et ben c'est tout ce qui se trouve pas en Europe, par exemple. Ouais. C'est tous les territoires délaissés. Ce sont les personnes aussi socialement plus défavorisées. C'est s'intéresser à ceux qui ne sont pas les puissants, en fait. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que les Européens, les catholiques européens, surtout les plus intégristes, vous l'aurez compris, n'aiment pas le pape François, parce que justement, il s'est désintéressé de l'Europe.
Il est allé vers les pays du Sud, il est allé vers les opprimés, et ça, c'est pas trop un vocabulaire de droite.
Voilà. Et ça s'est traduit d'ailleurs dans les nominations, parce que parmi les 135 cardinaux qui vont désigner dans le conclave le nouveau pape, il en a nommé 110 sur 135.
Ah ouais?
Ce qui est énorme. Il a remodelé l'Église, par exemple.
Un seul pontificat, pas très long en plus.
Mais les cardinaux, en général, ils sont vieux, donc ils meurent vite.
D'un certain point de vue, c'est démocratique.
Et par exemple, la place de l'Europe a vraiment diminué, parce que jusqu'ici, il y avait toujours plus de 50% de cardinaux européens. On est passé à 39%. Ils sont toujours les plus nombreux, mais ils n'ont plus la majorité à eux seuls.
Il y a encore Barbarin, pour faire le lien.
Ah, il est toujours là,
Barbarin,
ouais. Bon, comme quoi.
Le cardinal de Lyon, l'évêque de Lyon, qui avait couvert l'affaire du père Prélat.
Ouais.
Il est toujours il n'est plus évêque, il n'est plus.
Il est dans le conclave.
Mais il est toujours dans le conclave. Il va aller décider.
Il va voter. Oui. Il va voter au congrès des catholiques.
Cinq Français, dont Barbarin. Ouais.
Incroyable. Léa, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler quelles étaient les positions du pape François sur l'avortement?
Ah oui. ça va être rapide. Non, il n'était pas très favorable, disons.
Il n'était pas fan.
Non, il n'était pas fan de l'avortement. Non. Il a dit que c'était. Elle était très étrange, d'ailleurs, cette métaphore. J'ai du mal à l'analyser.
Ah oui, on règle pas un problème.
Ouais, avec des tueurs à gages.
Avec un tueur à gages.
Ouais. Qualifier les médecins. Voilà. Pratiquer.
Donc non, effectivement, tu disais pas turbo progressiste sur toute la ligne. Je suis bien d'accord. D'autant qu'il a été, il a été très loin sur ses positions anti-avortement, qui étaient très inquiétantes.
Plus que son prédécesseur.
Plus que son prédécesseur, qui était pas non plus le,
ouais,
le
qui était censé être plus radical. C'est ça le paradoxe.
Ouais, c'est clair.
Il a appelé le genre la bombe nucléaire. Enfin, il a comparé le genre à la bombe nucléaire.
Oui, voilà, ouais, c'est ça. Donc bon, un peu chelou. Ouais. Mais oui, oui, non, je pense que c'est assez rapide. Effectivement, il n'était pas très favorable. Et moi, il y a un autre truc sur lequel je voudrais revenir. C'est possible ou pas?
Non, vas-y, je t'en prie, vas-y.
Ou c'est pas dans le, enfin, c'est pas dans le bon ordre, dans le conducteur.
Non, tu vas encore foutre en l'air le conducteur de l'émission, mais vas-y, Léa, je t'en supplie.
Je me dis, tant que je suis là, j'y vais. Moi, je voulais revenir sur l'ambition internationale de ce pape. Parce que c'est quand même assez intéressant. Non, c'est trop
tôt. Tu me permets de faire une introduction à ce que tu vas dire juste après, effectivement. non, mais j'en ai parlé avec le chat, effectivement, quand on discutait du fait que le pape allait devoir être nommé à nouveau, il va y avoir un conclave, etc. Alors, je suis pas du tout un spécialiste du droit canonique, mais j'ai essayé d'expliquer. Et puis, il y en avait quand même dans le chat qui me faisait remarquer, mais attends, pourquoi c'est si important que ça, l'élection du pape, alors que le Vatican, ça représente quelques kilomètres carrés, c'est microscopique, c'est limite une micronation. Et du coup, je me suis rendu compte que, oui, il faut faire comprendre à peut-être des gens qui s'en sentent éloignés que dans les relations internationales, dans la diplomatie, il y a des pays qui pèsent infiniment plus que leur taille de surface de. Voilà, par exemple, les pays riches, ou les pays qui ont des armées puissantes, etc., ou des pays qui ont de la puissance culturelle. Et bien, ça, c'est le cas du Vatican, l'Église catholique. C'est plus d'1,2 milliard de croyants. Ça représente une puissance, c'est pas rien, c'est pas négligeable, et donc le pape a un rôle important en matière diplomatique. Laquelle est-elle, ma chère Léa?
Ah, je voulais revenir plus sur l'histoire un peu, parce que c'est vrai qu'on a l'impression en tout cas que c'est quelque chose qui est acquis depuis un certain nombre de temps, peut-être depuis des siècles, cette présence effectivement importante sur la scène internationale du Vatican, en la personne du pape en l'occurrence, qui est le chef du Vatican. Mais en fait, il faut savoir que dans l'histoire, relativement contemporaine d'ailleurs, jusqu'en 1914, le pape pouvait être, enfin, la nomination du pape était soumise au veto des chefs d'État européens. Donc du coup, genre lui, ah bah non, c'est mort, je veux pas. Il faut savoir aussi que pendant très
genre
très
la
longtemps,
européenne ou
ouais, c'est ça, exactement, genre
le conseil européen.
Von der Leyen, c'est mort, ouais, c'est exactement ça.
Et seulement.
Donc j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Il faut aussi savoir, rappelons quand même ça, qui est pas un moindre détail, que le Vatican a finalement été donné à l'Église par Mussolini en 1929. Donc c'est quand même assez important. Et ça a été un moment assez fort en fait de l'affirmation du rôle politique du Vatican, puisque Mussolini pensait museler en quelque sorte le Vatican en leur filant un territoire, ce qu'il réclamait depuis très très longtemps, et en fait ça crée une ingérence dans les affaires politiques italiennes, puisqu'il y avait cette proximité, donc ils disaient bon, bah, je leur file leur espace et comme ça ils me lâcheront. En fait non, ça s'est renforcé et ça a créé vraiment une ingérence encore plus forte dans les affaires politiques italiennes, mais pas que, aussi au niveau européen, et puis après par la suite international en fait. Disons que l'influence internationale du Vatican a commencé à émerger dans les années 60, notamment quand le Vatican a pris part en tant que organisation observatrice, notamment à l'Assemblée générale des Nations Unies, etc. Donc il y a quand même un rôle qui est très très important. Par ailleurs, le pape est souvent envoyé comme une espèce d'émissaire spécifique, et spécial pour aller négocier la paix. Ça avait échoué en Ukraine. Là, il avait échoué en Ukraine. Et en plus de ça, autre aspect quand même très intéressant, c'est que... Autre aspect très intéressant, c'est qu'ils ont même des ambassades. C'est-à-dire que le Vatican a des ambassades dans le monde entier.
Il y a aussi un réseau d'espions.
Et d'espions. Et oui. Exactement. Le renseignement du Vatican est assez performant.
Il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs ce soir.
Certainement.
On les embrasse.
Et fun fact, ils ont l'armée la plus petite au monde avec 130 soldats.
Ah bah oui, tu vois. Et donc du coup, en fait, cette influence internationale est quand même très intéressante. Moi, elle me fascine. Et voilà.
Je me permets d'attirer l'attention du public sur le fait qu'on est en train de parler de tout ça alors que nous sommes actuellement à Avignon. Le palais des papes d'Avignon se trouve à quelques dizaines de mètres de là où nous sommes actuellement en plateau, et que c'est ce palais des papes au cours duquel, que se déroulaient les conclaves à l'époque où les papes résidaient à Avignon. Donc on n'est pas directement dans le palais des papes, ce qui, c'est triste, ça aurait pu être très drôle, mais on est quand même dans un théâtre qui s'appelle le théâtre du Chêne Noir, qui est une ancienne église. Donc là, vous, chez vous, pouvez pas vous en rendre compte, mais le public, si vous levez vos têtes, vous verrez quand même là-haut.
Il y a peut-être eu un pape ici à un moment.
Il y a sûrement eu un pape ici à un moment. Et nous, on est en train de parler de ça, l'air de rien, en t-shirt, c'est génial.
Et le public a vraiment levé sa tête. Hein.
Et le public a vraiment levé, t'as vu ? Ça s'appelle de l'influence.
Fan de bâtiments historiques.
Usul.
Ouais. Là, c'est marrant, tu parlais d'espions. J'ai déjà parlé d'affaires sensibles la dernière fois. Ils en ont fait un il y a pas longtemps sur la CIA et Jean-Paul II.
Oh. Oui,
et oh. Oui, parce que Jean-Paul II, il bossait avec la CIA.
Non mais c'est fou ça, tout le monde bossait avec la CIA. Parce que Usul bossait avec la CIA, non, à ce niveau-là, quoi.
Surtout, bah, surtout quand il faut faire tomber le communisme, apparemment.
Bah ouais.
Parce que voilà, ah
bah,
pour les plus jeunes, vous ne savez peut-être pas que voilà, le pape était d'origine polonaise et qu'il a contribué assez largement. Donc le pape Karol Wojtyla, Jean-Paul II, Jean-Paul était II. D'origine polonaise, il est largement...
Tu connais son nom, par contre.
Ouais.
Quoi, contribué. Quand même. Ah bah, vrai fan de pape, moi.
Tout ce qui est pape.
Et il a largement contribué à la chute du mur, en tout cas, c'est ce qui a été dit, y compris par les soviétiques eux-mêmes.
C'est un peu légendaire, mais c'est pas tout à fait faux qu'il y a eu un mouvement syndical, Solidarnosc.
Bah, il a beaucoup aidé, voilà,
aidé le énormément en sous-main par l'Église, ouais.
Ouais, ouais.
Surtout en Pologne.
Et donc, et après, on sait, donc ça, c'était, il est mort en, je sais plus, 2005, un truc comme ça.
C'est ça, 2005.
Et donc là, il avait un vrai rôle. Il a eu un vrai rôle international. Il s'est vraiment engagé. Il allait, il pouvait aller en Russie quand normalement il n'aurait pas pu y aller, etc. Il a vraiment essayé de pousser pour que tombe le communisme. C'était la mission de sa vie, vraiment, de faire tomber le communisme à ce pape-là. Et puis ensuite, on a eu Benoît XVI, donc un pape beaucoup plus, beaucoup plus d'origine, voilà, qui avait fait les jeunesses hitlériennes et tout, quoi. une autre ambiance.
Moins communiste.
Voilà. Et
pas
en fait,
communiste.
Je pense que les gens sont sur le truc progressiste aussi par contraste avec ce qu'il y a eu avant.
Ah, oui, c'est clair.
C'est-à-dire que là, on a eu le pape François avec, en effet, ouais, il parle des pauvres. Mais en fait, il revient un petit peu.
Mais alors, encore heureux. Il a dialogué avec les marxistes.
Autre exemple aussi, ouais, qui est important, c'est
oui,
que.
Et l'écologie. Je pense que ce qu'on va retenir aussi beaucoup du pape François, c'est que c'est le pape qui a écrit. Il a écrit. Et vous savez, les catholiques lisent le pape.
Sure.
Vraiment, c'est édité en poche, vous pouvez trouver ça.
Bah les pas les bulles papales, mais
les encycliques.
Les encycliques.
C'était en 2015, au moment de la COP21.
Des Laudate, là, je sais pas quoi.
Il y en a une qui a été sortie effectivement en 2021 sur l'écologie, et ça a été vraiment un espèce de coming out écolo de l'Église catholique. Coming out, c'est peut-être pas le bon mot.
Non,
peut-être
pas.
Mais vous avez l'idée. Non, mais effectivement, en matière de diplomatie, là aussi, pour expliquer à quoi ça peut servir un État comme le Vatican peut être un tiers de confiance dans des négociations difficiles. Il y a un exemple comme ça qui, moi, m'avait beaucoup marqué à l'époque. C'était pendant le mandat de Barack Obama aux États-Unis que les relations entre Cuba et les États-Unis se sont apaisées quasiment d'un coup, à un moment assez spectaculaire, où Raúl Castro, le frère de Fidel Castro au pouvoir à ce moment-là, et Barack Obama ont tous les deux pris la parole à la même heure, à la même minute, sur leurs télévisions respectives dans leur pays, pour annoncer à leur peuple respectif qu'à partir de maintenant, les relations diplomatiques vont être réouvertes entre les pays officiellement, qu'il y aura une ambassade et qu'on va se diriger vers une paix, etc. Et c'est fou, parce qu'après des décennies d'embargo, après la guerre froide et tout, on a appris que c'était l'Église catholique qui avait joué un rôle phénoménal pendant des années et des années de négociations en silence, discrètement, avec des émissaires du gouvernement américain et des émissaires de Cuba, pour essayer de retisser des liens et de remettre sur pied une collaboration entre Cuba et les États-Unis.
Et c'est pour ça
ensuite,
qu'on...
Trump est arrivé au tout pouvoir et puis il a annulé. Mais
c'est pour ça qu'on s'en fout pas de qui va être le prochain pape.
Oui, absolument.
Quoi. C'est pas une histoire qui concerne que les catholiques ou une histoire de foi. Alors, ou je sais pas quoi. Ça,
sur
ça,
l'influence
y a un vrai
internationale,
rôle. Ça va être quoi le pape sous l'ère Trump, Trump 2.0, quoi, sous le technofascisme et sous les trucs qui se passent en ce moment. Que va faire l'Église catholique?
Surtout qu'il y a plein de. Ah, pardon.
Non, vas-y, Ariane.
Non, j'avais juste. Surtout qu'il y a pas mal. J.D. Evans, typiquement, il s'est converti au catholicisme. Il y a
Parle bien dans le micro, s'il te plaît.
Pardon. Il y a de plus en plus de gens d'extrême droite américaine, enfin des gens, des membres du Parti républicain et consorts, qui sont qui de base plus évangélistes et qui se convertissent au catholicisme. Voilà, dont Jude Evans qui donc s'est converti au catholicisme.
Il était détesté aux États-Unis, le pape François. Enfin, une partie des Américains, parce que on a demandé s'il était de droite ou de gauche tout à l'heure. Je sais pas s'il est de gauche, mais en tout cas, je sais que la droite et l'extrême droite le détestent, et notamment parce que au moment l'élection de Donald Trump, il avait écrit une lettre aux Américains justement qui leur disait de résister, notamment pour les migrants. Donc
L'influence, pardon, vite fait, parce que je pense que c'est important de parler de Gaza aussi.
Ouais. C'est justement pour ça que je voulais interroger Namou. Namou, le pape François, avant de mourir, et au cours de son pontificat, a pris des positions fortes sur le dossier Gaza.
Bah oui, on a un pape qui, selon le curé de Gaza, l'appelait tous les soirs depuis un an, qui prenait vraiment soin de demander des nouvelles de la population gazaoui, pas seulement forcément que des catholiques, des chrétiens palestiniens, mais vraiment de savoir comment va cette population palestinienne. Et je trouve ça super fort, parce que même lors de son dernier discours avant de mourir, Urbi et Tourbi Urbi et Orbi, bah, il a eu un mot pour Gaza. Il a eu un mot pour Gaza et c'est un discours qui est suivi par bah, tous les catholiques à travers le monde et tout le monde bah, entend en fait cette détresse qui vient du peuple palestinien à travers la voix du pape. Et je trouve ça important aussi parce que ça met aussi la lumière sur la minorité chrétienne palestinienne dont on parle très très peu. On a tendance un peu à réduire ce qui se passe à Gaza à un conflit entre musulmans et juifs. Et en fait, on oublie qu'il y a des athées, il y a des chrétiens et que en fait, c'est une question d'humanité au fond.
Léa.
Oui, je voulais juste, bah, parfait, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est super important, mais je voulais compléter aussi. En disant que c'est peut-être aussi là où on voit la limite de l'influence sur la scène internationale du Vatican.
Oui.
Parce que bien que depuis le début de ce qu'on peut clairement appeler un génocide, le pape François a été très régulier et très cohérent dans sa prise de position, tu l'as rappelé,
tout à fait.
Jusqu'au bout. Pour autant, ça n'a fait flancher aucun État occidental. Ouais,
et ça lui a même apporté beaucoup d'insultes.
Tu veux dire qu'il n'est pas si influent que ça, le pape.
Il n'est pas si influent que ça, mais c'est pareil sur la question des personnes en situation de migration, en fait. Il est baqué par aucun État occidental. Mmh. Aucun. Donc du coup, il y a effectivement, cette espèce de fantasme autour de l'influence, avec effectivement les espions du Vatican, etc. Mais finalement, peut-être que la réalité de cette influence est finalement assez moindre.
D'ailleurs, le pape n'a pas accepté cette hypocrisie, notamment de Macron. Voilà,
ah oui. Il n'avait pas applaudi.
Le sort fait aux migrants a fait que quand il est venu à Marseille, il a dit « je vais à Marseille ». Ce n'est pas une visite officielle en France, je vais à Marseille, je vais parler de la Méditerranée. Donc le pape a résisté aussi.
Oui, tout à fait.
Ouais, Macron a adoré avoir sa petite photo. Macron l'a invité à l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Il a fait « ça ne m'intéresse pas vos trucs, ce n'est pas mon truc ».
Après, il l'a vu en Corse.
Non, mais je suis d'accord. Mais en même temps, ce que dit Léa est intéressant parce que qu'est-ce que Macron a perdu suite à ça? Bah, pas grand-chose, en fait.
Il y a plein de ministres qui auraient fait la queue pour aller embrasser le pape, faire la photo et tout.
Oui, mais le fait qu'il ne l'ait pas fait n'a pas fait perdre à Emmanuel Macron 10 points dans les sondages. Ce que dit Léa est assez juste, c'est-à-dire qu'on en fait des caisses sur le pape. Mais est-ce que le pape n'est pas un lanceur d'alerte parmi d'autres qui s'indigne de son côté en disant des trucs
comme
forts
comme une personne normale.
Il fait des tribunes dans l'Obs, tu vois.
Il traite pas avec les autres chefs d'État d'égal à égal, en fait. Oui. Il fait plutôt un guide spirituel pour les croyants. Et donc, en fait, si influence il y a, c'est peut-être plus de ce côté-là, même si c'est extrêmement divisé. Mais en fait, il est...
Mais les croyants chrétiens, j'ai pas l'impression qu'ils votent massivement pour lutter contre...
Non, mais quand même, le pape a une influence sur l'Église catholique.
Ils ont voté majoritairement à l'extrême droite.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Les 37% selon la Croix, en France, aux dernières élections législatives, 37% des catholiques ont voté pour le Rassemblement national. C'est 5,5 points de plus que la moyenne nationale.
Ce qui explique peut-être pourquoi les médias Bolloré ont accueilli très fraîchement le pape François.
Oui, et pourtant, Jordan Bardella a décidé, bizarrement après avoir taclé le pape sur les migrants, d'aller se recueillir sur le cercueil du pape et de participer à ses obsèques. Parce qu'en fait, il a compris quand même que ça restait une figure. Mais pourtant... Là, quand on regarde CNews, ils sont à donf sur le cardinal Sarah.
Ouais.
Alors, qui est le cardinal Sarah?
Le cardinal Sarah, c'est l'archevêque de Conakry, en Guinée. Et c'est le digne héritier de l'Inquisition.
D'accord.
C'est un ultra-intégriste qui est un tenant de la théorie complotiste et raciste du grand remplacement, qui pense qu'en Europe, les musulmans, oui, vont grand remplacer la population chrétienne. Et donc, évidemment, ils sont en toupie sur CNews et dans le groupe Bolloré. Et je rappelle que, par exemple, il y a deux, trois ans, c'est Vincent Bolloré lui-même qui avait imposé à la une de Paris Match, lorsqu'il le possédait, un entretien avec le cardinal Sarah, qui, en réalité, n'a pas grande chance d'être pape. Hein. Mais en fait, il incarne quelque chose dans l'Église. Et donc, c'est Bolloré lui-même qui l'avait imposé et qui avait créé, dans la rédaction de Paris Match, un schisme, je crois que c'est le cas de le dire, énorme.
Non, c'est assez impressionnant. Affaire à suivre, en tout cas, que ce conclave donc qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines, les cardinaux, une bonne centaine de cardinaux vont se réunir à huis clos dans la chapelle Sixtine au Vatican pour élire le prochain pape.
Il y aura peut-être aussi un nouveau Dalai Lama.
Il y aura peut-être un nouveau Dalai Lama, parce que c'est eux qui votent aussi.
Et peut-être même deux.
Oui, parce qu'il y a celui qui est validé par les Chinois et celui qui ne l'est pas, c'est ça.
Mais pour conclave, il n'y a pas cette place.
Il n'y a pas assez de
Non, parce qu'il y a 135 cardinaux, il en a nommé trop, et en fait, il n'y a que 129 places pour dormir dans les chambres, donc ils sont d'un point de vue logistique.
Et bah, vous partagez les lits, les copains. Allez, on est ensemble, ça part, c'est la colo. Non, ok, d'accord.
Est-ce que je peux juste, je t'en prie.
En vrai, on a du temps, hein, vas-y.
Ok, super. Ouais. Non, mais sur cette influence du pape, je voudrais, parce que je refais un peu le lien avec Bétaram, pardon, mais ça me semble hyper important. Vas-y. Comme vous avez parlé de Sarah et un peu de ces différentes figures dans l'Église catholique qui incarnent différentes choses. En fait, ce nouveau pape, c'est aussi important, enfin, dans la direction que va prendre l'Église, et typiquement le cas de gérer les violences sexuelles sur mineurs, le cas de gérer, vous parliez du fait que le pape François normalement devait inclure plus de femmes au sein de l'Église, qu'il n'a absolument pas fait. C'est un petit peu, il faut que l'Église rentre un petit peu dans la modernité, ce qu'elle ne fait pas, et on va vraiment, je suis désolée, je me perds. Tout ça pour dire que c'est hyper important ce nouveau pape, de la direction que ça va prendre l'Église catholique, notamment sur la gestion de les violences sexuelles sur mineurs.
Et même auprès des croyants, même en France, voilà, il y a des cathos de gauche, il y a des cathos de droite. C'est vrai qu'on ne sait pas si c'était un pape de gauche. Par contre, c'était clairement le pape des cathos de gauche en France.
Oui, ça c'est vrai.
Vous avez, notamment pour son truc sur l'écologie. Marine Tondelier, qui elle-même a une culture catholique a dit beaucoup de bien aussi de ce pape. J'ai entendu, elle est allée au C'est ce soir sur le pape, quand même, Marine Tondelier. Les cathos de gauche n'ont pas disparu. Je ne sais plus qui me demandait, mais ils sont où les cathos de gauche? Il y en a encore
mais
pas mal.
Mais tu n'avais pas fait une vidéo littéralement là-dessus?
J'en ai déjà parlé, et j'en parlais notamment. En parlant d'Europe Écologie Les Verts, qui a accueilli beaucoup de cathos de gauche, c'est parmi leurs engagements. Si tu regardes,
je pense que les lecteurs de Pèlerin, ils votent écolo, ouais. Mmh.
Voilà,
c'est clairement.
Il y en avait au PS aussi.
Il y en avait au PS.
Il y a des figures de cathos de gauche. Hein. Tu parlais de Marine Tondelier, mais c'est le cas de Cécile
Duflot, évidemment,
de Sophie Binet, quand même, qui est la numéro 1 de la CGT. Elle était à la JOC,
Jeunesse
ouvrière communiste.
Catholique,
pardon.
Chrétienne.
Le mec, il ne sait plus. Il y avait Pierre Dharréville, l'ancien député communiste aussi.
Laroutureau aussi.
C'est possible.
Ouais. Non, mais il y en a plein, ils sont partout.
Ils
sont partout, mais ils sont discrets à gauche.
Faire comme
pas
ça
là
quand
avec
tu
ta grosse croix. Dire...
voilà. Et après, bon, il était progressiste, mais quand même, encore une fois, sur la question de reconnaître le caractère systémique des violences dans l'Église, il ne l'a pas fait. Tu vois,
il aurait pu aller plus loin.
Il aurait pu aller plus loin sur tous les sujets. Mais
il a défendu,
encore une fois, c'est une question relativiste. C'est-à-dire, par rapport à ce qu'on avait avant, il a effectivement fait des pas dans la bonne direction, pas assez loin.
Ça reste un pas.
On dirait un socialiste, quoi. Tu vois, il va dans la bonne direction, mais il va pas jusqu'au bout, là.
Moi, ceux qui le défendent aussi, disent qu'ils ne voulaient pas... Alors, notamment sur l'ordination des femmes aussi, des trucs comme ça. Ceux qui le défendent disent qu'ils ne voulaient pas tout secouer. Par contre, il a fermé la porte à rien. Il a dit, bon, ce sera peut-être le suivant, mais moi, j'ai d'autres chantiers, quoi.
Sauf à l'avortement, ça, il a fermé.
Ouais, oui, ça, c'était pas...
L'avortement, c'est vraiment...
Ça, non.
Il y a un autre truc, moi, que je trouve assez fou, c'est la fascination qu'on a pour ça, pour le pape. Enfin, pour lui, pour la figure du pape.
Comment tu l'expliques, toi?
Le balai,
j'en
les costumes
sais rien,
et tout.
Franchement, j'en sais rien.
Pour moi, c'est le même délire que la famille royale.
Non, mais ouais, c'est ça, en fait.
Même,
la présence de la, enfin, dans la pop culture, c'est quand même.
La pop culture.
T'as des mugs,
non,
t'as
c'est
des.
Vrai la pop culture, ok, je
la rajeunis. La pop culture, énorme. On adore.
Putain, mais vous êtes lent.
Okay. Témoignage chrétien, vous mettez ça en une, hein, de pop culture, franchement.
Non, mais c'est zinzin, c'est quoi. Et même moi, je me suis retrouvée. Écoutez, genre, je sais pas combien de podcasts là.
Ah
c'était
ouais
fou.
Ah, pas moi.
Ça m'a passionné. J'étais avec Mama Paprika pour petit déj. On était sur la fiche Wikipédia des papes.
Si je peux donner un argument, c'est effectivement
anti-papé. Pardon, je trouve ça intéressant.
Quoi?
Anti-papé, oui, effectivement, c'est quand t'es élu et que finalement tu l'es plus.
C'est moi qui t'ai appris ça ce matin, hein.
Oui, c'est vrai. Je disais, elle te ressemble vachement à la meuf.
Il regarde droit dans les yeux et il fait ses explications.
Il mansplaine le truc du matin.
Alors qu'il était là avec sa tête de café, genre. Hein?
Anti-papé. Ah, mais c'est vrai que c'est toi qui me l'as dit ce matin, ouais. Je savais plus où je l'avais appris, mais. C'est une meuf, elle est venue me voir, elle m'a parlé d'antipape, j'étais pas encore caféiné.
Il était 8h30 du matin.
D'ailleurs, si on peut conseiller dans la pop culture, moi je conseillerais bien deux films.
Bah justement.
Le premier, on en a parlé avec.
On est fan
tout à l'heure. Ouais, c'est le film de Nanny Moretti, Habemus Papam, où il y a une scène de volet avec des cardinaux. Je vous en dis pas plus, franchement.
Oui, elle est géniale.
Génial. Ouais, génial. Et sur Netflix, il y a le film aussi qui s'appelle Les deux papes, justement, qui parle de François et de Benoît XVI qui avait renoncé, et c'est plutôt intéressant parce que c'est aussi des discussions philosophiques et religieuses, politiques au sein de l'Église, et je vous conseille ça.
Moi je recommande The Young Pope avec Jude Law, dans un style un peu barré volontairement, mais avec une mise en scène absolument extraordinaire, des partis pris de réal hyper radicaux. On passe un bon moment. Et Jude Law, voilà. Il y a par ailleurs, il y a Jude Law en pape, rien que pour ça.
Incroyable.
Ça mérite d'être regardé. Et je reviens effectivement sur d'où vient cette espèce de fascination qu'on a pour le pape, le cardinal, etc. Outre les costards qui sont hyper classe et très impressionnants, t'as aussi le caractère millénaire. C'est un peu comme la reine d'Angleterre, tu vois. La reine d'Angleterre, c'est un espèce de truc, ça transcende, c'est loin. Je suis désolé, je vais un peu faire mon Macron avec Notre-Dame de Paris, tu vois. Genre, c'est les siècles qui nous regardent.
Ah, peuple de bâtisseurs et tout
peuple
ça.
Peuple de bâtisseurs, ouais. Tout ça et tout.
Stéphane Bern.
Ouais, c'est ça.
Suivez-moi.
Rendez compte, depuis des siècles. Il y a un petit peu ça. Je veux dire, l'Église catholique, elle peut pas laisser indifférent dans le sens où c'est un bordel qui est là depuis 2 millénaires quand même. Et c'est pas rien. Et les papes, quand il y en a un qui meurt, il y a une espèce de tradition qui fait que c'est un peu fascinant. C'est comme les éclipses. T'as l'impression d'être témoin d'un truc qui viendra pas tous les 4 matins.
C'est beau
et
ce que tu dis.
Je pense que ça explique le succès de Conclave, le film.
Ouais.
Et il y a de plus en plus de contenu, voilà, de films, de séries.
C'est complètement débile, hein, quand même.
Namour, hein. Oui, c'est un peu.
C'est quand même un scénario complètement débile.
Raconte pas la fin, tu
non,
spoil
pas. Hein. Je spoil pas la fin, mais c'est la politique pour aller nul au conclave. Et franchement, c'est fun,
c'est vrai que c'est un peu gros.
Mais c'est idiot.
Les ficelles sont un peu grosses. Namour, la religion catholique, est-ce qu'elle intéresse de plus en plus de jeunes en France? Est-ce qu'on a des chiffres?
Alors là, il y a à peu près 10 000 catéchumènes. Alors, qu'est-ce que c'est les catéchumènes? C'est un mot un peu... ça désigne en fait les personnes non baptisées qui font la démarche en fait de le faire. Et donc là, dans l'année 2025, il va y avoir 10 000 personnes qui vont se faire baptiser.
Juste dans l'année 2025
Juste dans l'année 2025. Et, et c'est assez intéressant parce que parmi ces personnes, il y a 48% qui viennent de familles non croyantes. Donc, voilà.
C'est ça la stat intéressante.
C'est ça, ouais.
C'est que c'est pas une transmission par exactement, les parents, c'est une transmission par...
T'as les chiffres des évangéliques à côté?
Alors, j'ai pas le chiffre des évangéliques.
Des musulmans?
Non,
à mon avis, je pense que c'est ridicule à côté des deux autres.
Ouais. Sachant que ces chiffres, Jean-Jacques Bourdin, ils viennent de ces chiffres viennent de la conférence des évêques en France. Je ne sais pas s'il y a le même principe que ce soit dans la religion musulmane ou chez les évangéliques.
Oui, mais... il y a moins de 2 fichiers. Ouais.
Oui, mais en tout cas, moi, ce que je vois, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est il y a de plus en plus de prêtres influenceurs. Ouais. Il y a de plus en plus de jeunes catholiques qui parlent en fait de leur religion, qui a un public averti ou non, qui explique en fait comment ça marche, le catéchisme, tout ça. Et aussi sur Twitter, on voit des jeunes qui se prennent en photo avec leur soutane et en fait tu vois qu'ils ont des Nikes, des contours, machin. Enfin, ils sont très dans l'air du temps, mais en même temps ils sont dans cette institution millénaire. Ouais. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'ils essayent aussi de, enfin en tout cas pour ce qui est de la religion catholique, de suivre un peu les pas des évangéliques. Parce que justement, ils sont très, très, très à fond.
Les évangéliques, c'est 650 000 personnes en France. Donc, c'est un peu plus que la primaire populaire.
Mais en vrai, pour rebondir sur ce que dit Namour, on assiste en réalité...
Pardon.
L'union de la gauche est notre religion, genre.
Ah oui, pardon, c'est la suite.
Mais on assiste plus à, en fait, un retour du recours religieux qu'un retour religieux. C'est aussi le manque de transcendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les idéologies se sont quand même un peu effondrées. On n'a plus grand-chose dans quoi croire. Et donc, il y a certains
Il y a Baxit, quand même. Enfin, bref, non, mais.
tu es un papabile. Papabile.
Ouais, avec la barbe,
on va faire la quête. Ouais. Voilà. Bon, abonnez-vous à la chaîne Twitch et faites un don à Baxit. C'est Dieu qui vous le demande. Excuse-moi, je t'ai coupé pour raconter des conneries.
Ouais, et maintenant tu vas te faire voir, je dis plus rien.
Ah non.
Moi, je veux bien rebondir sur la papa mobile. Pardon, ça me fascine aussi.
La papa mobile?
Ah ouais.
Pourquoi?
Ah, c'est un délire.
Ce sera le mot de la fin.
Ouais, il y a Renaud qui avait fait une papa mobile, je crois, pour Jean-Paul II.
Renaud, le chanteur?
Tu te venges là, c'est ça?
Oui, mais sur Léa qui a rien fait, la pauvre.
Ah ouais, c'est vrai, merci. Ah bah, Cocorico. Cette fameuse papa mobile, quand même, avait des poignées en or. Tout était en or et c'est pas fini. Ils avaient trouvé un système de sorte à ce que lorsque le pape s'arrêtait et que les fidèles voulaient lui baiser les pieds, dégueulasse. Ça, c'est un délire aussi, je ne juge pas, mais quand même, je trouve ça un peu.
No king shaming. Il refusait pas, justement.
Non, attends. François, le siège pivotait. Tu pouvais appuyer. Tu pouvais appuyer sur un bouton et faire pivoter le siège pour que les gens puissent plus facilement lui baiser les pieds.
Et ça, c'est pas de série maintenant sur les Mégane, sur les séries 5, je sais pas.
Si, du coup, ils ont gardé le concept, c'est en option.
C'est une option, ouais, c'est pas de série, c'est une option.
C'est l'option papa mobile.
On rappelle le concept, mais... hein, c'est que c'est une voiture vitrine où t'as un pape au milieu et c'est des vitres blindées pour pas qu'on le tue. Voilà.
Parce qu'il y a déjà eu des...
c'est comme le starter pas pack. Le voilà.
Il y a déjà eu des tentatives de meurtre. Autre sujet, Emmanuel Macron est en tournée dans l'océan Indien. Et il s'est rendu à Mayotte 5 mois après le passage du cyclone Chido qui a ravagé l'île. Au moins 39 morts et des milliers de blessés. 3,5 milliards d'euros de dégâts. Une économie complètement à terre. C'était ça le bilan du cyclone Chido. Et après ce passage par Mayotte, Emmanuel Macron s'est rendu à La Réunion, frappée en février dernier par le cyclone Garance et touchée en ce moment par une épidémie de chikungunya. On en est à 120 000 cas détecté de chikungunya. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Emilio, de cette visite d'Emmanuel Macron à Mayotte?
Alors, moi, je connais plus la partie Réunion, parce que j'ai fait un papier dessus, mais ça m'énerve, c'est un peu, en fait, c'est le même problème entre La Réunion et Mayotte, c'est qu'on a un chef de l'État qui a, on peut le dire, dénié passer une tête. Grosso modo, il est resté 24 heures à Mayotte, 24 heures à La Réunion, c'est parce qu'il se rendait à Madagascar, il devait aller à l'île Maurice, mais comme le pape est mort, bah, il a écourté sa visite. Mais en gros, on a un président de la République, alors qu'il y a deux catastrophes majeures qui ont frappé des territoires de la République qui sont déjà abandonnés, notamment sur du point de vue du service public et l'hôpital qui tire la langue comme rarement à Mayotte et à La Réunion, et bah, Emmanuel Macron... Il fait un passage éclair pour essayer de calmer la colère. Et en fait, pour avoir eu des gens sur place, parce que du coup, j'ai fait un papier pour lui-même dessus, il a plutôt attisé, parce que les gens, ils n'ont pas compris pourquoi il ne restait pas. Macron, il n'était pas venu à La Réunion, par exemple, depuis 2019. Ça fait 6 ans que ce territoire, le président de la République n'avait pas foutu un pied.
Pas d'annonce, rien en plus.
Et en fait, voilà, il a dit qu'il allait annoncer des choses en ce qui concerne le cyclone Garance. C'est notamment le problème après Garance, c'est beaucoup sur l'agriculture, c'est la filière de canne, donc qui produit le sucre de canne, mais pas que. C'est central dans l'agriculture à La Réunion. C'est 52% des plantations, de l'espace agricole sur l'île. Et aujourd'hui, elle est complètement à terre et on a une chose qui ne se passe jamais, c'est que l'ensemble de la filière agricole, c'est-à-dire qu'on parle des gens qui élèvent des bovins, qui font des légumes, etc., ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut prioritairement relever la filière canne. Et Macron, il est arrivé en disant « Oui, bon, on verra, en gros, on en reparle en juin ». Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les agriculteurs, ils touchent déjà des aides, mais en fait, ils ne touchent pas les aides du cyclone Garance, ils touchent les aides du cyclone Bilal de l'année dernière.
Oh, mon Dieu.
Donc en fait, on en est là, c'est ce niveau-là, et en plus, s'ajoute à ça l'épidémie de chikungunya. Je ne sais plus à combien de morts on était quand j'ai écrit mon papier, on était à 7, dont un nourrisson, et en fait, c'est... Les gens sur place, c'est des députés, des eurodéputés, des sénateurs qui m'ont parlé, m'ont dit, il y a 20 ans, la première épidémie de chikungunya, on l'avait mieux gérée que ce qu'on la gère aujourd'hui. Par exemple, il y avait de l'information dans les beaucoup plus de campagnes d'information, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et en fait, l'Agence régionale de santé fait le choix de l'immunité collective. L'immunité collective, c'est le choix qu'on avait fait pour le Covid. C'est-à-dire qu'on attend qu'un nombre très important de la population soit contaminé, et comme ça, ça crée une immunité collective et le virus recule. Sauf que
Sur le Covid, il y avait un choix de ralentissement de la propagation.
Oui,
quand même.
Oui, non, il y avait en confinant. Mais au bout d'un moment, on s'est dit qu'on pouvait pas confiner tout le temps, et donc il fallait aussi, en même temps qu'on vaccinait, faire le choix de l'immunité collective. Et ben, en fait, ça a quoi comme conséquence le choix de l'immunité collective? C'est que 10% des personnes qui sont frappées par le chikungunya ont des douleurs chroniques qui restent pendant des années. Voilà, donc on fait ce choix-là, faute d'avoir, encore une fois, anticipé. Mais l'anticipation, c'est quand même pas le grand fort de ce gouvernement, quel que soit le sujet, mais sauf que ça a des conséquences encore plus dramatiques quand on voit ce qui se passe dans les territoires ultramarins qui sont déjà abandonnés.
Namou, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette visite d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien?
Bah pour moi, ce genre de visite, notamment vu la durée, c'est vraiment... Il y a toute une stratégie de communication derrière, en mode, bah voilà, je suis passé. Ciao. Mais en fait, on est sur des territoires sinistrés qui demandent plus que 24 heures de simplement de « Ah, bah vous voyez quand même, là, on a réussi à faire quelque chose, quoi. On a remis l'eau. » Ouais, mais vous avez remis l'eau pour 24 heures et quand vous allez repartir, la situation sera exactement la même que précédemment, voire pire. Et en fait, j'ai lu pas mal de témoignages d'habitants à Mayotte ou même ensuite à Madagascar, juste... Enfin, il est ensuite passé à Madagascar, qui disait qu'il y avait une sorte de nettoyage, en fait, de la misère sociale, de tout ce qui ne va pas, quand le président arrive dans ce genre de territoire, pour montrer, en fait, une belle image. Et moi, je trouve ça juste scandaleux, et c'est dingue, en fait. Enfin, si c'est pour
aller dans ces territoires-là juste pour faire une campagne de communication, mais enfin, ça ne sert absolument à rien, quoi.
Alors, il y en a un, c'est intéressant parce qu'il y en a un qui est salué pour le coup, à l'inverse, pour son côté, je fais moins de com et je suis sur le terrain et tout. Bah, c'est Manuel Valls, actuel ministre des Outre-mer.
Je l'avais oublié.
Je l'ai entendu être quand même salué par des observateurs et par des élus à gauche, reconnaissant son boulot
sous
à Mayotte.
Couvert d'anonymat.
Oui, sous couvert d'anonymat, évidemment. Mais non, mais quand même.
Enfin, tu vois, surtout les autres avant, ils étaient tellement nuls que Manuel Valls à côté, quand il a été premier ministre, il a géré les ultramarins. Il arrive avec, en fait, quand même
la Nouvelle-Calédonie.
Quelques compétences, notamment en Nouvelle-Calédonie. Mais après, Manuel Valls, il a offert.
Est-ce qu'il est en train de faire le taf?
C'est pas à moi de juger. C'est pas à moi parce que en fait, j'ai pas les compétences nécessaires pour juger. Hein, c'est pas que je refuse de prendre position. Après, si des élus disent que c'est mieux qu'avant, tant mieux. Que ce soit Manuel Valls ou quelqu'un d'autre, tant que les sujets avancent, autant qu'ils avancent. Mais après, il y a des questions que Manuel Valls n'a pas réglées. Ce que je n'ai pas abordé juste avant, mais tu parlais de Mayotte et du cyclone Chido. Ils sont où les morts de Mayotte? Le bilan, je n'ai plus encore, mais en gros, on est à moins d'une centaine de morts du bilan de Mayotte. Moi, j'ai des collègues qui sont rendus sur place et qui ont dit qu'il avait rencontré des personnels de la sécurité civile, des pompiers, qui disaient que dans certains villages où ils s'étaient rendus, longtemps après le cyclone, parce que il y a eu trop peu de moyens développés, et il y avait quasiment des charniers où il y avait des corps qui s'amoncelaient aujourd'hui.
De 39 morts.
C'est un scandale énorme. Où sont les morts de Mayotte, par exemple? Et ça, Manuel Valls, si on l'invitait dans Backseat, ce que je ne propose pas, c'est une question que je voudrais lui poser, par exemple.
Ça fait des mois qu'il y a ce bilan provisoire, effectivement. Ouais. C'est scandaleux.
Emmanuel Macron s'est aussi rendu à Madagascar, où il a voulu créer les conditions du pardon de la colonisation française. Est-ce qu'Emmanuel Macron fait un taf que vous jugez intéressant sur la question mémorielle vis-à-vis de l'Algérie? Alors, c'est pas le bon moment d'en parler parce que les relations sont tendues plus que jamais, mais il y avait eu le rapport Stora, la reconnaissance de l'État palestinien qui devrait intervenir en juin s'il va jusqu'au bout de son processus, et c'est Emmanuel Macron qui parle de la colonisation mémorielle et qui dit qu'il est prêt à aller jusqu'à demander pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'en sais rien, c'est peut-être que des petits symboles et tout. On peut revenir à ce que tu disais sur le côté je passe une tête de temps en temps, je fais un truc positif.
C'est mignon de demander pardon, mais les pays sont peut-être aussi en droit de demander des réparations derrière. C'est d'ailleurs en général pour ça qu'ils ne disent pas pardon.
Et
si tu dis pardon, tu reconnais une faute, tu m'aides à réparer derrière. Et là, il l'a fait avec Haïti il n'y a pas longtemps, oui, d'accord. Mais vous nous remboursez le remboursement de la dette? C'est tout de suite autre chose.
Il faut que tu t'expliques peut-être.
Oui, j'explique quoi?
Le remboursement de la dette à Haïti.
Haïti a dû, en somme, dédommager. Donc Haïti qui s'est libéré de la France un poil avant notre Révolution française, il me semble. France a dit, très bien, mais nous, ça nous coûte des sous, votre Révolution. Va falloir nous dédommager de tout l'argent qu'on aurait gagné si on avait gardé cette colonie.
Pour rembourser les colons.
Cette colonie, et rembourser le travail qui n'a pas été fait. Et les propriétaires qui étaient expropriés, du coup.
C'est ça, rembourser les propriétaires d'esclaves qui ont été lésés.
Parce que les esclaves ont été libérés.
Voilà, exactement. Et du coup, c'est notamment une des choses qui explique le fait que Haïti ne s'en est pas remis, devoir rembourser le fait de rembourser les colons.
Ça a plombé son développement pendant des dizaines d'années,
Donc aussi, juste sur la colonisation, du coup, le fait que Macron s'excuse ou pas, il y a un peu aussi, il faut reconnaître en fait cette actualité de la colonisation, et c'est pas seulement « hâte des eaux pour ce qu'on a fait », c'est reconnaître l'actualité de la colonisation et l'actualité de…
Non, je comprends, mais c'est une étape, c'est-à-dire que ça passe par la reconnaissance de la réalité, demander pardon, ouvrant la possibilité d'une réparation, mais ça se fait pas en un claquement de doigts, il faut réunir une commission… d'historien, tout ça prend beaucoup de temps et j'ai l'impression que Macron est du genre à faire des pas dans ces directions-là. J'ai l'impression qu'à droite tout le monde s'en fout et qu'à gauche tout le monde s'en fout aussi.
Et le rapport Stora, il en a fait quoi le rapport Stora?
C'est toujours ponctuel en réalité. Il n'y a pas justement une prise de conscience globale et ça c'est par exemple les travaux de l'historien qui est hyper intéressant, Pascal Blanchard, c'est vraiment son sujet et on l'a vu encore avec la polémique de Jean-Michel Apathy sur l'Algérie. La France n'est encore pas prête à reconnaître les méfaits de la colonisation dont elle a été l'autrice dans un nombre de pays incalculable.
Et
tant qu'en fait il n'y a pas de travail, mais Mauriel qui est engagé aussi avec des historiens, ça peut pas être un seul coup, un coup par-ci, un coup par-là. Et donc il faut on a un secrétariat d'État à la mémoire, mais qu'est-ce qui fout le secrétariat d'État à la mémoire, sans déconner, par exemple. Il pourrait aussi se saisir de ça.
Et à mon avis, il s'en saisit très largement. C'est juste que c'est un secrétariat d'État très peu médiatique. Personne les invite, et nous les premiers. Hein, tu vois,
aux anciens combattants et à la mémoire.
Oui, non, mais moi, anciens combattants, surtout, personne les invite jamais. Donc,
Tu parlais de quelque chose de ponctuel, et là, par rapport à Madagascar, il y a aussi la question du retour de corps de malgaches qui ont été ensuite emportés en France. Et en fait, là, il y a cette question de rendez-nous nos morts, rendez-nous nos œuvres. Il y avait la question au Bénin, notamment, de tout ce qui était les artefacts du royaume du Dahomey. Et en fait, Macron dit, vous voyez, je mets en place ce genre de processus. Mais en fait, c'est des processus qui sont arrivés avec des demandes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et il arrive comme étant un peu le messie qui débloque un peu cette situation-là, alors que c'est vachement motivé aussi par son agenda de, j'ai l'impression, de se positionner comme étant un acteur de l'histoire réparatrice.
Alors ça, c'est un truc effectivement que tu retrouves chez beaucoup de chefs de l'État. Je me souviens que Nicolas Sarkozy, ça m'avait marqué aussi ce côté, je suis là pour écrire une page de l'histoire de l'humanité tout entière.
Ouais.
Je veux pas être retenu juste pour mes réformes sur l'assurance chômage ou je sais pas quoi.
Ouais, mais...
Je veux laisser ma pierre dans l'édifice.
Il l'a bien laissé, lui.
Juste sur le... Encore une fois, c'est bien gentil de dire... Enfin, c'est... faire un pas, dire oui, pardon pour la colonisation, etc. Mais enfin, là, on a parlé de Mayotte, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, s'excuser pour la colonisation et ensuite laisser les gens dans cet état-là, de laisser l'hôpital public à Mayotte, de vouloir stériliser les femmes dans l'hôpital public, de voir, évidemment, la répression envers les Kanaks. Enfin, c'est un peu aussi, tu vois, je veux bien que c'est des pas, mais quand en même temps, t'envoies l'armée. Sur les Kanaks et que genre tu laisses les Mahorais dans un état pas possible, c'est voilà, enfin ça questionne quand même pas mal, quoi.
Et la gestion colonialiste en Guadeloupe et en Martinique.
C'est clair. Il y a la loi de programmation de Mayotte dont on n'a pas parlé aussi.
C'est qu'on la France puissance veut garder ses territoires pour l'influence politique, pour la surface de la mer que ça te fait, pour les ressources à proprement parler, pour le poids que ça lui donne, pour là où elle peut positionner éventuellement son armée. Tiens, on est présent
pour faire
partout.
Des expérimentations sécuritaires surtout.
Oui,
les couvre-feux, évidemment.
Mais c'est des populations dont on ne s'occupe pas. Il n'y a pas de projet, si vous voulez. Il n'y a pas de projet pour les gens. Voilà.
C'est ce qui était critiqué par les élus locaux. Programmation de Mayotte.
Ouais,
c'est un projet justement qui va bien dans le sens projet de loi de programmation pour Mayotte, qui a été présenté il y a quelques jours justement, qui prévoit on ne sait pas où d'ailleurs parce que c'est pas inscrit dans les lois de finances et a priori ni dans les projets de loi à venir, 3,2 milliards d'euros pour refonder entre guillemets Mayotte d'ici à 2031. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a des propositions qui sont effectivement essentiellement sécuritaires. Contre la lutte contre l'immigration, toujours, leur marotte habituelle. Et quand même, moi j'ai regardé un peu les mesures, notamment en matière sociale, pour voir s'il y avait des choses qui pouvaient effectivement aider les personnes sur place. Ils proposent un alignement du SMIC par rapport au SMIC qu'on a ici en métropole. Mais quand ? D'ici à 2031, s'il vous plaît ?
Ça met du temps. Hein.
Voilà. C'est la prochaine fois que Macron y retournera. C'est pour ça.
Dans 6 ans,
c'est loin,
ils vont mettre 6 ans pour faire un alignement du SMIC.
Ça prend énormément de temps, un alignement du SMIC.
Mais c'est des volontés politiques aussi.
Ça dépend du prix des denrées sur le territoire. C'est-à-dire si tu fais juste une politique d'inflation, c'est pas une très bonne idée.
C'est pas une politique d'inflation, c'est juste l'alignement par rapport à ce qu'on a sur le territoire.
Mais si tu le fais en un claquement de doigts, absolument personne n'a les moyens de le payer.
Un claquement de doigts, mais en 6 ans, genre. Ben, c'est pas un claquement de doigts, il y a peut-être bref, moi je trouve que ça me choque. Et je pense
ça peut
que
se faire
si
avec des
aides
publiques aussi pour accélérer le tempo.
Par exemple. Certainement, peut-être, je sais pas, moi, ils veulent renforcer le régiment de la Légion étrangère, par exemple, aussi. Des trucs très sympas. Et puis, voilà. Toujours conditions durcies pour l'obtention des titres de séjour, retrait du titre de séjour possible si l'enfant représente une menace sur le territoire, enfin des trucs vraiment lunaires. Là, a priori, ça pose pas de problème de le mettre en un claquement de doigts. Je suis un peu
quand vous avez Bruno Retailleau qui dit l'état de droit n'est pas intangible, il est surtout assez relatif en fonction des territoires,
exactement,
en fonction des populations, et il faut regarder aussi ce que la République fait de ses exceptions, à qui elle les réserve.
Voilà, et ces territoires-là sont en effet des territoires d'expérimentation, tu l'as dit, sécuritaire, mais même aussi au niveau du droit, quoi, juridique.
Oui, et pas que, enfin, typiquement les essais nucléaires, ce genre de choses. Oui. On tente, on essaye, on fait des essais nucléaires en Polynésie.
Oui, exactement, c'est ça. Vraiment des lieux d'expérimentation. Mmh.
Plus
même
de désert algérien.
Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble dans l'actualité politique, une prise d'initiative de la part de Lucie Castel, ancienne candidate du nouveau Front Populaire au poste de Matignon l'été dernier. Lucie Castel qui s'est fendue d'une tribune dans Libération pour dire qu'elle souhaite organiser une primaire des gauches la plus large possible en vue de la présidentielle de 2027. Elle a appelé donc les partis politiques à se positionner sur ce sujet et les a invités à se réunir le 2 juillet prochain, donc juste après la session parlementaire, au tout début des vacances d'été, pour commencer à discuter de l'opportunité d'organiser un processus. Chose que je trouve intéressante dans sa tribune, Lucie Castel ne propose aucune modalité précise. Quand elle dit primaire, elle dit peu importe la méthodologie, il faut qu'on en discute ensemble, mais en tout cas qu'on ait un candidat commun. Moi, ma question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez que les partis politiques de gauche vont se rendre à cette réunion du 2 juillet, ou est-ce que c'est déjà trop engageant ? Ne serait-ce que de foutre... venir à la réunion, est-ce que c'est pas déjà dire on est curieux du processus, on est prêt à en discuter, mais une fois que tu y allais une première fois, parce qu'il y en aura d'autres, des réunions derrière, tu peux pas faire marche arrière. Ou alors tu deviens celui qui a claqué la porte.
Ils ont déjà fait le PS à ce moment-là aussi.
Mais ils auront déjà fini le congrès. Parce que le 2 juillet, c'est donc effectivement la fin de la session parlementaire, même si on ne sait pas encore s'il y en aura une suivante ou pas. Par contre, c'est la fin du congrès du PS depuis grosso modo 3 semaines.
D'accord.
C'est à la mi-juin. Mais non, alors, disons qu'il y avait déjà eu une précédente tentative en 2021, juste avant 2022, justement, d'unir la gauche. C'était Yannick Jadot, qui est pour les décollages, avait réuni tout le monde comme ça sur le canal de l'Ourcq à Paris. En fait, c'était un cirque, justement. C'était pour regarder. Moi, je veux faire l'union, mais les autres ne veulent pas. Et puis, au bout de, ils ont fait une première réunion en physique, une deuxième en physique, mais où les journalistes n'étaient pas trop conviés à la sortie. Ouais, et puis, une troisième en visio, en fait, où il n'y avait plus personne, qui était totalement déséquilibré, etc.
Donc c'est la preuve que ça peut ne pas marcher.
Et donc, mais en fait, ça ne peut pas marcher. Pour
ils
une bonne raison.
Ils avaient fait des photos super cringe aussi.
Ouais.
Canal de l'Ourcq.
Et ils marchaient là comme ça, genre les Beatles.
Ouais, enfin ils étaient 23 les Beatles là. Hein, c'est,
Bah la gauche française quoi. Hein.
Et il y avait même Corinne Lepage de Cap 21. Donc
c'est
dire. Mais en fait Mathilde Panot a déjà plus ou moins déjà répondu pour la France Insoumise en disant que ils étaient quand même pas chaud pour y aller parce que de toute façon on a bien compris que Jean-Luc Mélenchon serait probablement, enfin serait candidat en fait. Ils ont dit de toute façon on propose aux autres de venir derrière nous.
On a déjà un candidat unique. Pourquoi vous en voulez un autre?
Donc Panot stop.
De l'autre côté, le Parti socialiste ne compte absolument pas laisser la place aussi pour mener une potentielle union, même si eux, ils essaient aussi de créer un processus entre, en gros, de Ruffin et Glucksmann, c'est ce qu'ils disent.
Donc ce que tu dis, c'est que les socialistes, c'est exactement comme les insoumis. Ils veulent être leaders de leur propre mouvement unioniste.
Oui, voilà. Non, mais c'est grosso modo. Mais de toute façon, c'est le problème à gauche, c'est qu'on a deux forces à peu près équivalentes qui essaient de se neutraliser, qui ne se supportent plus depuis des mois et qui ne veulent pas laisser, ils ne veulent pas laisser à l'autre la possibilité de mener l'alliance. Et c'est d'ailleurs même précisément pour ces raisons-là que Lucie Castel peut aujourd'hui faire des tribunes dans Libération alors qu'elle était totalement inconnue au mois de juillet dernier. C'est parce que l'année dernière, justement, ni la France Insoumise ne voulait pas que le Premier ministre soit un socialiste et inversement. Et c'est aussi donc ce qui fait que Lucie Castel ne peut absolument pas être audible sur sa proposition. Déjà pour petit 1, parce que aujourd'hui on est dans une phase de congrès, notamment chez les écolos et chez les socialistes. Donc c'est une phase de repli interne plutôt identitaire. Et donc c'est la réaffirmation à chaque fois de son parti pour essayer de dire que oui, alors Marine Tondelier elle dit qu'elle veut l'union, mais elle dit que de toute façon il y aura un écolo dans la primaire et qu'il ça doit pouvoir être un écolo. Et quand elle dit ça, elle pense aussi à elle. Et les socialistes disent bah de toute façon ça doit être un des nôtres qui porte l'alliance parce que c'est bon, maintenant on a repris du poil de la bête et on va plus mener la politique de François Hollande, même si ça c'est quand même compliqué d'y croire. Et la deuxième chose, c'est que Lucie Castel, pourquoi elle est pas audible? Et ben Lucie Castel, c'est parce qu'elle a pas de parti derrière elle. Donc ouais, en fait Lucie Castel, elle est toute seule et donc elle a incarné un temps, elle a été le visage de l'union de la gauche, mais c'est tout aujourd'hui.
C'est précisément, c'est-à-dire que je veux bien le fait d'avoir un parti, le fait d'avoir des troupes, etc., ça ne fait pas un score à la présidentielle. C'est quand même la leçon historique des dernières élections.
Oui, mais ça donne du poids dans les négos.
Le PCF.
Ah, bah oui, mais sauf qu'avant d'arriver à la candidature, il faut des négos. Hein.
Alors que Lucie Castel, elle a pour elle, à minima d'avoir été à un moment le visage d'une union de la gauche qui a fait un bien fou à beaucoup de gens.
Oui, mais auquel personne n'a jamais cru quand tu parles à tous les membres du conclave, parce que ça a duré quand même 15 jours ce cirque de savoir qui serait premier ministre de la gauche. Et en réalité, quand tu parles à toutes les personnes qui étaient présentes, savaient pertinemment que Macron ne la nommerait jamais.
Ouais. Usul, Glucksmann se prépare tout seul de son côté, ça c'est sûr.
Ça fait plaisir. Ouais, ouais, ouais.
Il a vraiment un cap clair.
Ouais, bah non, maintenant il est autonome, il a été lâché manifestement. Donc il veut y aller, ça c'est sûr. Donc les papiers disent ça. Hein. Mm. Et en ce moment, au congrès du PS, la grosse question va être, j'ai vu que les deux lignes, ça allait être fort, qui veut qu'il y ait une union quand même de Ruffin à...
Glucksmann,
voilà, c'est ça, de Ruffin à Glucksmann, donc tout le monde sauf Mélenchon en gros. Et les autres, donc menés par Nicolas Mayer-Rossignol, qui lui veut une primaire. Alors, il veut à peine d'une primaire, et puis ce serait mieux que ce soit surtout des sociaux-démocrates. Donc, on irait jusqu'à Cazeneuve.
En fait, lui, là, comme ils sont en train de faire le congrès, le Parti Socialiste doit assumer sa mue vers la social-démocratie allemande et devenir les sociaux-démocrates en France. Au sens de, le PS doit abandonner toute référence au marxisme, à la lutte des classes.
Oui, enfin, ça suffit le marxisme, là, on en parle toute la journée.
Donc voilà, ça c'est le truc, effectivement, de Nicolas Mayer-Rossignol, et qui sont en train de mettre à jour cette doctrine en disant, voilà, on est des sociaux-démocrates, on n'a pas vocation à continuer à faire des alliances avec un Jean-Luc Mélenchon, avec qui nous n'avons rien à voir.
Et voilà. Alors, ils disent que dans un second temps, ils viendront proposer aux autres, sauf la France Insoumise, une candidature commune issue de leur rang. Voilà.
Ah bah c'est gentil, parce qu'en l'occurrence, il se trouve que la France Insoumise leur proposera également une candidature issue de leur rang.
Moi, je voudrais revenir. Il y a un truc qu'elle dit, par contre, Lucie Casté, dans sa tribune, c'est qu'elle parle de radicalité. Elle parle de rupture. Ouais. Elle parle d'une rupture. Bah non, mais c'est pas rien depuis le début. On n'a pas parlé de ligne politique. On n'a pas parlé de quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire?
Pourquoi tu t'énerves? C'est toi qui as la parole, vas-y. Je t'en supplie.
Non, mais parce que c'était ça, la question à trancher. C'est quelle ligne politique? Quelle rupture avec le néolibéralisme? Quelle société on veut être? Quel projet pour la France? Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus, les socialistes? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je sais plus où je le disais, mais je le dis assez souvent. Je pense que quand tu demandes aux gens de gauche qu'est-ce qu'ils veulent, je pense qu'ils veulent la rupture. Je pense qu'ils veulent plus d'écologie. Je pense qu'ils veulent plus de féminisme. Je pense qu'ils veulent tout à la fois. Ils veulent des meilleures conditions de travail aussi pour les gens. Ils veulent de meilleurs salaires, etc. Et rien n'exclut rien. Et le tout avec, en gros, changer de modèle, quoi. Changer de pays un petit peu.
Et les gens, ils veulent aussi un candidat unique.
Non, mais oublions ça. Okay. Qui veut ça? Est-ce qu'au PS, ça veut ça? Bon, je suis pas sûr qu'au PS, on n'ait pas plutôt envie de continuer les affaires courantes, un petit peu comme on sait faire d'habitude. Marine Tondelier, elle a une aile droite qui veut pas ça. Hein. Marine Tondelier, elle a aussi une aile droite, elle a des gens comme Jadot, qui sont des libéraux.
Son aile droite, elle pèse 8% en interne.
Oui, mais quand même, elle est censée être au milieu.
Son aile gauche, elle pèse 11%.
Je pense qu'on...
Sandrine Rousseau.
Ouais, mais tu rajoutes Karim Adélit à 20.
Ouais, si tu veux, ouais.
Je pense que tu peux faire. En tout cas, ce projet.
C'est le boucher, quoi.
Ce projet. Bon, allez, démerdez-vous.
Non. Usul, continue.
mais je dis juste que parlons des lignes politiques aussi. Tous ces gens parlent pas de lignes politiques. Parlons, ça casse les couilles. Et ça se prend la tête sur des trucs. Bon, allez, le PS de droite. Bon, c'est la seule question, c'est est-ce qu'il va être de droite, mais pour l'Union.
C'est
pour l'Union.
Quelle ligne politique
mais
peut réussir?
Mais ce qui est fou, c'est que les pestiférés dans l'Union, là. Sont ceux qui ont le plus travaillé un programme, qui ont le plus imaginé ce que pourrait être cette France-là, et ceux qui ont fait 22% la dernière présidentielle.
Tu parles de qui? Des insoumis?
Je parle des insoumis, ouais. Qui sont les pestiférés pour tous les autres.
Mmh. Valo, il veut quoi?
Va lui demander.
Pareil que Fort.
On avait son pote tout à l'heure, on le rappelle, si tu veux.
Valo, il veut une refondation du Parti Socialiste et il veut un retour du PS hégémonique, ce qui ne veut absolument rien dire.
C'est la même position que Fort.
C'est la même position de Fort que tous les socialistes.
Ouais. Moi,
c'était quand même mieux à l'époque quand on faisait 30% et que tout le monde nous obéissait. Bah oui.
Je ne sais pas si Mélenchon va y aller, je pense qu'il y aura une prime pour la personne, la liste, le programme qui incarnera le mieux ce dont on parle là, ce changement de société, cette radicalité qu'il y a dans la gauche, qui fait que si la gauche ne fait pas de radicalité, de toute façon, ce n'est pas intéressant, les gens ne votent pas pour ça, sinon ils votent ailleurs. La stratégie de Glucksmann qui est de, on va récupérer les déçus du macronisme pour faire une gauche...
Enfin, le même macronisme.
Voilà. Donc ça ne va pas prendre, aux européennes peut-être, mais là, au présidentiel, les gens votent plus, les gens s'intéressent et les gens veulent un récit. Le récit Glucksmann, pardon.
Léa, j'allais te demander, toi, tu y crois, une candidature unique à gauche ou pas?
J'y crois parce que Tu sais, finalement, bien qu'étant très cynique, je suis une idéaliste, hein, voilà, ça faut le dire. Non, mais c'est vrai. Donc oui, bien sûr que j'ai envie d'y croire. Bien sûr que j'ai envie d'y croire. Mais après, mon côté, donc ça, c'est mon côté idéaliste, n'est-ce pas? Mon côté cynique me pousse à me demander, elle veut quoi, Lucie Castet, avec tout ça, avec sa petite tribune, avec le soutien de Victoire Populaire, qui est en mode, oui, il faut vraiment l'union. Bon, ça, c'est normal.
Quoi, ça, Victoire Populaire?
C'est le délire. Bah, c'est la suite de la primaire populaire.
Ouais. Et ça, c'est sa victoire.
Et qui a partagé justement cette tribune en disant que c'était une excellente initiative, etc. Des personnes que j'ai interrogées en off au sein du collectif se demandent si, même au sein des Victoires Pop, si c'est pas une façon de pousser effectivement Castet, alors que le principe de l'organisation est de pousser personne, mais d'aller vers l'union. Bref, quid de ça, moi je me demande, est-ce qu'elle a une véritable ambition pour cette primaire, elle-même? Je veux dire, elle lance.
Moi, je pense, oui. Voilà, oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Lucie Castet a une ambition personnelle à cette primaire, parce que Lucie Castet peut gagner une primaire de la gauche, compte tenu, encore une fois, de ce qu'elle symbolise.
Après, ça dépend aussi qui vote. Effectivement, la question, c'est de savoir comment elle va s'organiser, cette primaire.
Bien sûr, mais auprès des sympathisants de gauche qui ont tous un a priori très positif sur la NUPES et le NFP, vu qu'elle est le visage de l'union du NFP,
je suis pas sûre.
À mon avis, elle peut faire un score loin d'être dégueulasse.
Je pense pas. Non. Ouais.
Dans une recherche de renouvellement et tout.
Mais c'est quoi sa ligne
Et c'est à elle de nous le dire.
J'en doute assez fort.
Plus, j'y crois pas.
Mais bon, je m'interroge quand même sur cette initiative. Ah oui, non, mais bien sûr, évidemment.
Elle est vaillante.
Et ça, c'est sûr. Il n'y a pas de sujet, mais ce n'est pas tant la personne. C'est juste. Oui. Moi, je m'interroge effectivement sur son ambition. Est-ce que cette initiative peut effectivement nourrir une ambition personnelle d'essayer de prendre la lumière sur cette potentielle primaire? Je ne sais pas. Je m'interroge, tout simplement.
Moi, elle m'a plutôt l'air d'être une facilitatrice quand même. C'est le discours qu'elle continue de tenir au moment de la chute de Bayrou. C'était « je veux être une solution et pas le problème ». Donc en fait, si les autres ne veulent pas de moi, c'est pas grave. Moi, je suis... Enfin, faut pas oublier qu'elle était personne il y a un an, Lucie Castet. Et
entre-temps, elle a tout perdu.
Et voilà, elle a même plus de boulot. Donc,
et oui, c'est ça.
C'est vrai qu'on a vu, Emilio, on a aussi vu que BFM TV récemment a commandé des sondages pour tester des hypothèses. On est à 2 ans de la présidentielle, ce qui est régulier hein, de la part des chaînes d'infos en continu. Sauf que dans aucun scénario, en général, on fait des scénarios. On essaie d'imaginer qui serait candidat et tout. Et on teste un échantillon de Français là-dessus. Ils n'ont jamais testé une union de la gauche.
Non, alors mais en fait, aujourd'hui, on n'a que des sujets qui m'énervent. Macron et la Réunion.
Tu sais, l'actualité est moche.
Ouais,
mais désolé, Emilio.
Et le pape.
Non, mais en fait, voilà, c'est ça.
Quoi?
Je vais la faire à chaque fois. On a effectivement un sondage IFOP sorti par BFM et la Tribune du Dimanche qui pose 6 scénarios sur la table. 6 scénarios, en fait, c'est pour tester Bardella ou Le Pen, Édouard Philippe ou Gabriel Attal, Olivier Faure, François Hollande ou Raphaël Glucksmann. Mais dans 6 cas sur 6, la gauche est testée, divisée. 4 candidatures à chaque fois. À chaque fois sur les 6 scénarios, les macronistes sont testés unis.
Ouais.
Sauf qu'en fait, le scénario de l'union existe pour les macronistes, elle existe aussi pour la gauche. Si le scénario de la division existe à gauche, il existe. Celui de l'union existe. Une union à une candidature ou 2 candidatures, ça reste une union. Mais tout ça, on peut tester.
Ils sont pas bien faits, les sondages. Je trouve que c'est un peu biaisé, tout ça.
Mais en fait. Et justement, j'allais y venir. Mais parce qu'en fait, on oublie. Qu'est-ce que c'est un institut de sondage? On dit institut. En fait, c'est une entreprise de sondage. Donc, qu'est-ce que fait l'entreprise? L'entreprise, elle répond à une commande. À une commande d'un média qui a une ligne éditoriale. Et donc là, quand il suffisait de regarder le titre de l'article, c'était Marine Le Pen en tête. En gros, duel entre Édouard Philippe et Marine Le Pen, virgule, Raphaël Glucksmann devance une gauche dans une gauche divisée. En réalité, il était de 0,5% devant Jean-Luc Mélenchon, ce qui s'appelle la marge d'erreur. Mais ça leur permet d'installer l'idée déjà d'un duel. C'est une prophétie autoréalisatrice entre la droite et l'extrême droite.
Mais pourquoi on commente ça, tu vois ?
Et justement, pourquoi nous, on le commente ?
Ouais.
Mais juste parce que je pense qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui se laissent berner par les sondages.
Oui,
Ah oui, on le critique alors, du coup. Oui, on commente pas.
On critique.
C'est ce qu'il fait depuis le début.
Tu as l'impression que je suis conciliant avec le sondage là ?
Non, mais juste ça me prend la tête. Rien que d'entendre sondage, en fait, maintenant, ça m'énerve direct.
Mais encore, t'as pas lu celui dans l'opinion qui teste Thibaut InShape à 8%.
Pour le coup, les sondages.
Premier degré. Hein.
Je suis chaud.
Il y a Thibaut InShape à 8% dans l'opinion. Enfin, 8% des Français interrogés par je sais plus quel sondage dans l'opinion seraient prêts à voter Thibaut InShape.
Et il y a Usul dans le sondage aussi, en fait.
Non, il n'y a pas Usul. Non, mais il y a Francis Lalanne, c'est un peu la même vibe.
D'accord, ouais.
Mais peut-être je vais faire la primaire.
Ouais.
S'il y a une primaire du n'importe quoi, ah j'y non, vais.
Mais moi, à chaque fois qu'on me dit une personnalité conciliante et potentiellement
rassembleuse,
en capacité de rassembler, moi je dis Usul.
Ouais. Consensuel même. Genre, allez, on peut aller jusqu'à consensuel.
Regarde, tu dialogues déjà avec Donald Trump qui fait des messages sur Facebook pour toi, là.
Je peux...
Non, c'était la chronique d'Adèle, mais t'as pas suivi. Ah.